Bien le bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Donc, on va se voir en personne plus souvent cette année.
C'est tellement agréable.
Tabarouette. Merci à la pandémie. Non, mais je veux dire, on se réjouit pas de la pandémie, mais
non,
en tout cas, c'est une occasion de rapprochement à distance.
Comme l'adage le dit dans le sport, on essaie de faire, de tourner l'adversité en positif.
Exactement. Puis je pense que c'est un excellent réflexe. Et d'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais j'ai regardé le documentaire sur Tiger Woods présenté par HBO en deux parties dimanche la semaine dernière et la deuxième partie hier. Je regardais le matin parce qu'il y a pas mal de sport à regarder, disons, fin de semaine, là, on s'entend, mais compartimenter les pensées puis s'organiser pour... Bon, en toutes circonstances, golf, peu importe, sport confondu, la maîtrise qu'on peut avoir de nos actions, de nos pensées, c'est fou ce que ça peut nous permettre de faire. Et c'est un... Nous autres, on le sait qu'on peut tout le temps glisser un petit peu sur un bord ou sur l'autre, mais disons que c'est pas une mauvaise affaire de maîtriser ça dans des périodes où le challenge pour chaque individu est assez grand, là.
Ouais, ben tu sais, je pense que dans la vie, le sport devrait accorder plus d'importance au savoir-être et permettre aux gens de mieux d'accepter avec humilité qui ils sont, d'accepter que tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir la même tribune, qui va avoir les mêmes opportunités dans la vie. Mais ce que tu as comme opportunité, ça va arriver un jour ou l'autre, tu vas en avoir des opportunités, parce que la vie, c'est ça. Tu sais, il va arriver des situations où tu vas. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu sais, là, les joueurs s'amusent à dire, là, moi, j'attends juste, I'm waiting for my time to shine. Tu sais, mais ces moments-là arrivent dans la vie de quelqu'un à un moment ou l'autre, là,
oui,
un jour ou l'autre.
Absolument.
Et la même chose avec l'adversité, même chose. Alors, mieux tu es outillé, plus tu es conscient de qui tu es, de tes limites, de tes forces, les choses sur lesquelles tu es plus fragile, ça t'aide à prendre de meilleures décisions, à réagir plus adéquatement, d'avoir de meilleures performances parce que tu es plus adéquat dans ta sélection de réponses à la stimulation que tu as en avant de toi, parce que tu es mieux outillé. Et quand ça ne marche pas, tu sais aussi, tu as tes mécanismes en place, tu es capable de t'auto-gérer, t'auto-évaluer, de retourner à la base puis de dire, bon, ben voici ça, comment je fais pour... malheureusement, là, dans le monde du sport, les parents en premier, et ce n'est pas un procès, nous, je m'inclus, on focus sur un résultat au lieu du processus. Donc, la personne, si tu focuses sur le processus, elle va faire comme toi. L'athlète ou ton enfant va focuser sur le résultat plutôt que sur le processus. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est que ce qui va te définir dans la vie, c'est ton processus, c'est pas le résultat. Parce que le résultat, tu vas faire...
Une fois que tu l'as, ton résultat...
Oui, puis tu peux avoir deux,
la
trois bonnes
continue,
performances.
La vie continue, tu peux pas t'arrêter là, c'est pas une fin en soi. Là.
Puis tu n'auras pas le même résultat, deux, trois bonnes performances, tu
n'auras
pas nécessairement le même résultat. Donc, il faut que tu apprennes à te préparer, à évaluer tes chances, savoir quand tu embarques, tes chances de gagner sont où, à quelle place tu vas focusser pour déstabiliser l'adversaire, t'augmenter tes chances, essayer de gagner. Quand ça, c'est fait, mais là, après ça, tu as un recul à prendre. Dire, si tu as gagné ou perdu. Donc là, ton résultat t'aide à dire, OK, je m'en vais dans la bonne direction ou non, il faut que je regarde mon plan et je réévalue ça pour dire, ben ça... Et c'est pour ça que Tiger Woods a changé son swing de golf. Il a dit, OK, moi, mon swing, là, le fameux swing de golf, ben là, il faut que je le modifie.
Mais lui, la meilleure affaire qui est arrivée, c'est dur de tout résumer sa carrière qui s'est passée devant les caméras, même ses arrestations, ça a été on tape, c'est pas évident, là. Mais dans le fond, sa vie là, personnelle là, a commencé le jour qu'il s'est fait arrêter sous l'effet des 5 médicaments qu'il prenait de façon abusive pour ses painkillers, pour éliminer la douleur, puis pour toutes sortes de raisons. Parce que là, il s'est sevré, puis là, il y a eu son opération de fusion dans le dos. Puis là, il a pu recommencer à découvrir qui il était, parce qu'il était un peu programmé pour devenir qui il est devenu. Mm-hmm. Puis quand tu sors de la traque à un moment donné, ben, tu peux t'égarer. Mais bref, c'est fort intéressant, tout ça.
Ah, ben, écoute,
mais je vais en reparler de toute façon un petit peu plus tard dans le documentaire ou même à une autre émission, mais ça faisait référence
Mario,
à ça.
Je t'invite, Mario, à un moment donné, on pourra faire une émission complète sur l'importance de se servir du sport pour devenir ce qu'on doit devenir dans la vie.
Et je parlais avec le directeur, le président, le directeur général vendredi soir. Là, on est loin du match d'Edmonton, mais c'est pas grave. C'est ça, la communication avec nous autres à la radio, puis les sujets qui nous animent, qui nous passionnent en direct. Mais un président, directeur général d'entreprise, premier texte, une entreprise du bas du fleuve, là, 4-5 000 employés à travers le monde, un gars qui croit au sport, puis que là, tout le monde s'est mis à faire du vélo dans l'entreprise. Ben beaucoup de monde, pas tout le monde. Puis là, il commandite Astana. Il est rendu quasiment actionnaire de l'équipe Astana, là, du World Tour.
C'est M. Ouellet, ça, M.
Bélanger.
Bélanger.
M. Jean Bélanger. Ben, sais-tu quoi?
Il y en a pas mal des Bélangers dans ce coin-là.
Ben, si, là, je viens de faire le lien, puis j'aurais dû allumer. Si je me trompe pas, je sais pas si c'est pas dans la famille de France Margaret.
Ah, ça, je sais pas. Ouais.
Parce qu'elle vient d'une famille qui a une grande, grande entreprise. Puis peut-être, mais là, peut-être que je fais
C'est pas dans le même domaine. Ils sont pas dans le même domaine.
Je sais pas. Je vais faire ma petite enquête. Ouais. Ça serait drôle qu'il y ait deux entreprises dans le bas du fleuve qui emploient autant de monde que Bélanger qui dirige. Mais
écoute,
bref,
c'est
une autre histoire. Là, on pense tout. Maintenant, Canadien Edmonton, deux matchs en trois soirs. Puis là, il va y en avoir beaucoup de matchs consécutifs contre les mêmes équipes. Est-ce que tu es particulièrement intéressé de voir comment tout le monde va s'ajuster, comme après un round de boxe là, ou après une demi au football?
Oui. Oui, c'est clair que les Oilers doivent trouver une façon d'ouvrir le jeu en zone neutre parce que le Canadien a été impeccable. Ils ont aussi très, très bien géré la vitesse de Connor McDavid, ce qui fait que McDavid a été limité à deux tirs durant le match. Mais McDavid, même s'il lance pas, il fait d'autres choses. Là, on s'entend là-dessus. Là, en partant, c'est un joueur exceptionnel. Là. Mais tu sais, je te donne une statistique qui va te faire sourire. C'est que l'an passé, il y avait 29 % d'efficacité, les Oilers, en avantage numérique. Okay? Ils ont marqué 59 buts dans l'année. Sur les 59 buts qu'ils ont marqués, 46 % des buts venaient de deux gars.
On a-tu besoin de jouer des vignettes?
On a pas besoin de les nommer, là.
Drysdale et McDavid.
Après ça, tu regardes...
Tu neutralises ces gars-là, Danny.
C'est le troisième plus haut marqueur, il joue pas, c'était James Neal. Il avait 12 buts l'année passée, puis il est pas là. Fait que, tu sais, à un moment donné...
À Paris sportif, mettons,
tu dis, ces deux-là sont contrés, on a pas mal réglé l'affaire, là. Puis on n'est pas en train de parler d'une équipe... Tu sais, j'ai pris des parallèles, j'ai dit, OK, bon, ben, parfait. Ils ont quand même deux pièces maîtresses que tout le monde rêve d'avoir. Là. C'est le meilleur duo ou le one-two punch dans la Ligue nationale, c'est eux qui l'ont. À l'époque, c'était les Penguins de Pittsburgh. On s'entend pour dire que Crosby, Malkin, il n'y a pas bien des équipes qui avaient ça dans leur arsenal. Tu sais, fait que... Et en carrière, Crosby, Malkin, c'est 1,23 points par match, combiné les deux. C'est du stock, là. C'est énorme. Et les deux gars des Oilers sont à peu près dans la même zone, 1,15. Alors, le problème, là, c'est pas là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de le temps. Imagine s'il y avait Petrie dans leur alignement aujourd'hui.
Et ça fait des années qu'on constate ça à distance, là.
Hein? Les autres, là, tu sais, mettons, Clefbaum est en santé, puis tu leur donnes... une fois que Clefbaum est là, puis tu leur donnes Petrie, ils disent, écoute, c'est plus le même club, là. C'est sûr, là, tout le monde, hop, là, ouais. Et donc, tout ça pour dire que c'est une organisation qui... Je pense, comme bien des organisations qui ont eu des grandes époques, il y a un passage à vide parce qu'il y a une recherche identitaire. On vit trop dans le passé. On est dans le rétroviseur constamment. Puis ça prend un certain temps avant de changer ça parce qu'on dit, ben dans le temps, on gagnait comme ça, on va gagner. Non. Les années, tout change. Que ce soit en affaires ou...
Est-ce que Marc Bergevin tente d'implanter depuis qu'il est arrivé à Montréal? Tu sais, Jeff Molson, quand il l'a embauché, pour implanter une culture gagnante.
Oui.
Bon, ça fait 10 ans, puis c'est pas facile d'implanter une culture gagnante. Là. Ça passe par des individus, ça passe par un collage de décisions, des bonnes, des moins bonnes, puis à un moment donné... Puis il y a la chance, le grand privilège d'être le seul, peut-être, ou un des rares DG de l'histoire ici, à la tête d'une équipe canadienne, de bénéficier de la confiance de son propriétaire sur une assez longue période pour apprendre de tout ça, puis j'ose croire s'améliorer comme
apprendre
directeur
de
général.
Parce qu'ils en ont fait.
Ils en ont fait, exactement. Mais d'être encore là, parce qu'il y en a, il y en a un paquet qui n'aurait pas pu se rendre la moitié de ça.
Dans un marché comme Montréal, absolument.
Non.
Absolument.
Fait que ça, c'est le grand privilège qu'aurait été.
Tant mieux pour nous aussi, si les résultats arrivent.
Si ça donne,
C'est nous. On est des spectateurs attentifs et privilégiés.
Ça veut pas dire que changer trois fois de DG aurait donné des meilleurs résultats.
Non, absolument pas. Absolument pas. Puis moi, je continue de croire que tu peux changer une personne dans l'organisation qui a un poste de direction, mais si tu ne changes pas la manière de faire, quand ça ne fonctionne pas, tu n'avanceras pas. Tu vas juste créer de l'espoir. En d'autres mots, si tu es dans ton processus, tu ne prends pas, tu te mènes aux mauvaises décisions, tu dis ça, tu vas mettre dehors celui qui a pris les décisions, mais tous ceux qui arrivent après dans l'environnement, qui sont encore là, qui restent là, quand le nouveau arrive, là, est-ce qu'il va changer les choses? Parce que c'est ça qui se passe, c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Là. On parlera pas de politique, là, mais quand tu arrives dans un appareil politique, au gouvernement, tout ça, il y a ce que tu veux puis il y a ce que tu peux.
Mais c'est sûr.
À cause de la structure qui est en place, à cause de la façon de faire. Puis dans une organisation qui est un peu condamnée au succès, ben c'est un peu ce qui se passe. T'sais, tu vois, c'est long avant de changer les choses, à dire, bon, mais là, on va changer carrément notre manière d'aborder telle facette de notre... tel département ou telle facette de notre travail parce que voici les résultats au cours des X nombre de dernières années, puis on n'a rien changé, puis ça a rien donné. Donc, la stabilité, oui, mais la progression constante, elle est essentielle. Si on ne sent pas une progression constante puis qu'on continue de répéter à faire les mêmes choses tout le temps...
Ben non, tu tournes en rond.
C'est comme de dire, on refait les mêmes erreurs en espérant des résultats différents.
Mm-hmm.
Alors là, on est... T'sais, on s'approche un peu de ce qu'on peut communément appeler la pensée magique.
Exactement, ou un rond-point. Ouais. Sans issue, non? Sans issue. Je ne sais pas trop, mais... statistique, Danny, puis je faisais allusion au fait que la zone devant Carey Price, ce territoire du gardien, était tout à coup moins... C'est un territoire moins accueillant pour les adversaires.
C'est clair.
Le Canadien, l'an passé, a accordé 47 buts sur des tirs voilés. C'était le deuxième pire résultat de la LNH. Et ils accordaient en moyenne 6,1 tirs voilés par match. C'était le 26e pire résultat de la Ligue. Donc, la nouvelle défensive plus costaude, là, penses-tu que c'est de nature à permettre à Carey Price de voir plus de lancers arriver? Ou au contraire, des 6 pieds 4 en avant de lui, il y en a encore plus de tirs qu'il ne verra pas venir. Mais je pense que l'idée, c'est de déblayer pour qu'il puisse voir le plus de lancers possible.
Ben, c'est une combinaison de deux choses, OK? Lorsque les défenseurs sont pas efficaces dans les coins, donc lorsque le maîtriser un adversaire, contrer un adversaire à un contre un, empêcher la rondelle de bouger, quand tu es trop lent à faire ça et tu n'es pas capable de mettre ton bâton sur celui de l'adversaire, la rondelle s'en va où? Elle s'en va rapidement vers le haut de la zone, parce que c'est là où il y a de l'espace.
Mm-hmm.
Donc la rondelle va plus souvent à la défense. Quand tes défenseurs sont pas assez efficaces à un contre un. Si tes défenseurs sont efficaces en 1 contre 1, puis ton jeu collectif à 5 est très efficace en bas de territoire, la rondelle, elle ne monte pas. Elle n'a pas le temps de monter. Et si elle monte, bien là, les ailiers n'ont pas besoin de descendre si profondément parce qu'ils savent que les défenseurs vont faire le travail. Ça revient toujours à la même chose. Si tu ne te fies pas à un joueur individuellement, tu fais de la couverture de zone. Là, ça veut dire que tout le monde s'en vient devant Carey Price, mais c'est sûr qu'ils vont faire dévier plus de rondelles, il y a plus de monde. Si tout le monde fait son travail, il y a moins de tirs du point d'appui en contrôle parce que les ailiers sont plus près des défenseurs adverses, à la ligne bleue adverse. Et donc, ça veut dire que nos défenseurs, dans notre zone, sont plus efficaces dans leur responsabilité à un contre un. Ce qui était un problème l'an passé, à certains égards.
Fait que c'est pas juste de nettoyer devant du filet.
Non, c'est une combinaison de deux facteurs.
Ouais,
un
amène à l'autre.
C'est ça. L'effet domino, c'est que si t'es pas capable de contrer à un contre un, t'es pas capable de faire un bon travail à un contre un, la rondelle se promène, puis souvent, ben, quand il n'y a plus de jeu, tout le monde est descendu, là, la rondelle va au point d'appui, puis là, ben, il y a bien les palettes dans les airs, il y a de la circulation, le gardien ne voit pas bien le jeu, c'est plus facile.
Puis il va y en avoir encore des buts. D'ailleurs, il y en a eu un contre Toronto l'autre soir, contre le Finlandais, juste pour mal faire, Nylander, j'ai oublié son nom sur le moment. Jake Allen devant le filet ce soir, je ne suis pas bien surpris, c'est de savoir si c'était au match 4, au match 3, jusqu'à quel point c'est important d'intégrer quelqu'un dans un groupe rapidement qui sent utile?
Je pense que le pointage a à voir avec la décision des entraîneurs.
Ah oui, explique.
Oui, parce que...
La bédaine pleine?
Peut-être un peu, puis aussi, tu bâtis un petit succès que tu veux que tout le monde contribue. Tu veux pas que ton succès... Donc là, tu sais, je pense que... J'ai l'impression que ce soir, on va faire... dépendant de l'allure du match, on va faire aussi un petit peu de gymnastique pour donner toutes les opportunités à Toffoli de trouver le fond du filet, à Kotkaniemi de trouver le fond du filet, tu comprends? Pour faut créer du momentum à partir du succès de l'équipe.
Avec les mêmes unités?
Oui.
Avec les mêmes unités. Tu viens de te nommer Toffoli en tout premier lieu. Oui. Les statistiques, là, il ressort bien dans les statistiques, les chances de compter, dans les entrées de zone. Oui. Il est en possession de la rondelle assez régulièrement au bon moment, cause pas de problème. Bon, troisième match ce soir, Kotkaniemi, lui et Armia. Sans qu'ils paraissent mal, là, je dis pas qu'ils paraissent mal, mais j'ai hâte de voir, tu sais, des fois, ça prend, qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre? Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir comme trio?
Là, si on parle le trio du jeune Nick Suzuki avec celui de Kotkaniemi, la grande différence, c'est que la contribution est pas équilibrée. Je trouve qu'Armia se fait attendre.
Je suis d'accord.
Alors, c'est sûr que là, il manque, tu sais, c'est boiteux un peu. Ça manque d'énergie. Souvent, quand il y a un joueur qui n'est pas au rendez-vous, bien, les jeux, il manque un petit quelque chose.
Est-il énigmatique un peu, Armia?
Absolument.
Il l'est, hein? Parce que, honnêtement, il y a des soirs, ce gars-là, là, quand il joue un bon match, dans la bulle ou ailleurs, honnêtement, là, tu dis, hey, il faut trouver une façon de garder un gars comme ça dans ton troisième trio. T'sais, il est grand dans les batailles pour la rondelle. Puis il y a des mains. Là. Oui, le long d'une bande. Lui, là, s'il réussit à sortir de là avec la rondelle, il peut lâcher une garnotte que tu n'auras pas vu venir. Personne n'aura vu venir.
C'est sûr.
Mais il y a des soirs, tu le vois pas.
Je vais t'utiliser l'expression que j'aime pas utiliser avec des joueurs. Là, mais j'ai l'impression qu'à l'occasion, il abandonne sur des jeux.
Le désir, quoi, la confiance, c'est quoi?
L'attitude en général, le comportement général, comment il est bâti dans sa tête, quand il y a la rondelle, au moment où il y a la rondelle, ou dans les situations où il peut se battre pour une rondelle, mais quand il la perd, au moment où il la perd, on dirait que c'est fini. T'sais, on dirait que j'aimerais voir le deuxième effort, j'aimerais sentir un peu de passion dans son jeu.
Mm-hmm.
Je ressens ça avec Drouin cette année, c'est extraordinaire, tu sais. Ben, ça fait que le trio avec Anderson puis Nick Suzuki, écoute, on a quelque chose, là. Il se passe de quoi? Mais les trois contribuent, là.
Mais tu me fais penser à quelque chose en disant ça, Danny. Et trop souvent, je trouve, un chiffre de même, là, dans les 10 dernières années, peut-être plus que ça, peut-être un petit peu moins que ça. Ce qui est arrivé, je trouve, c'est que les meilleurs joueurs du Canadien avaient toute la pression. Tu sais, que ça a été Pacioretty dans le temps, que ça a été Price, que ça a été... Je veux dire, aussitôt qu'un joueur, Drouin, quand on fait son acquisition, aussitôt qu'un gars rime avec talent, je veux dire, là, tu regardes des gars de talent que t'as, tes partisans, tes critiques, tes journalistes, tu veux que le gars de talent charrie l'équipe, tu veux que le gardien fasse des miracles. Mais c'est pas de même que ça marche. Et là, donc, les pauvres gars sont tout seuls, puis à un moment donné, on dirait qu'ils pétrissent, là. Ils se recroquevillent un peu devant cette pression qui devient une pression malsaine.
Mm-hmm.
J'ai l'impression que l'oxygène est plus sain autour de Jonathan Drouin parce que là, ben, on regarde pas juste dans sa direction.
On est toujours plus fort en groupe. Toujours, toujours, toujours. Tout seul, tu accomplis très peu. Alors, les joueurs, c'est ce qu'ils veulent avoir comme feeling. Ils veulent sentir ça.
Alors, tu veux te prouver
trio,
aussi?
Ben oui. Puis sur un trio, ça devient un peu contagieux. Hein? Le succès, c'est contagieux. Lui, hop, il fait un extra. Il donne un petit effort de plus. C'est pour ça que tu vois le trio de Dano, là. Même si un soir, ça ne marche pas. Là. Tu ne vois jamais de relâchement. Jamais. Parce que, écoute, là, Gallagher arrive au banc et tu peux pas le suivre. Là.
Tu penses-tu que Tatar et Dano se sont dit? Écoute, mon Phil, oui, mon Thomas... Je pense qu'on va avoir une grosse saison. Yes, sir. Ah, non, mais les deux sont dans une situation identique. C'est de l'humain, là. C'est entre toi et moi, là. Toi, t'es Thomas, moi, je suis Philippe. Ah, ouais. On est dans la même situation. On joue ensemble. On a une bonne chimie. On y va-tu? On y va-tu la pédale au fond?
Ouais.
Trouves-tu qu'ils ont l'air de ça?
Ils ont l'air de ça. Puis, honnêtement, je pense que c'est des gars qui.
Ils sont de même naturellement.
Ils sont comme
aussi.
Ça. Il y avait des contrats. Plus, ils étaient comme ça. Pas de contrat. Ça change rien à leur affaire. Puis, écoute, c'est très contextuel que ces gars-là n'ont pas de contrat. Là. On regarde la situation.
Qu'est-ce qu'on sous-estime le plus de Tomáš Tatar?
Bien, en fait, c'est que... Parce que Tatar, c'est pas un joueur très engagé physiquement. On va avoir tendance à sous-estimer ses habiletés avec la rondelle. C'est que, mettons que tu veux, t'es un coach, toi, t'aimes les joueurs qui complètent les mises en échec, qui frappent, tout ça. T'aimeras pas Dano, puis t'aimeras pas Tatar.
Ça, c'est bon ce que tu viens de dire.
Mais si tu aimes le joueur qui est efficace pour récupérer des rondelles en utilisant la position de son corps, utiliser le bâton, qui donne le deuxième effort, qui surprend l'adversaire, qui fait des... C'est sûr qu'il va faire des compromis pour se protéger physiquement parce que c'est pas un géant. Mais il va compenser avec d'autres choses. et il est efficace, mais différemment. Alors, il fera jamais ce que... quand il va attaquer un adversaire qui a la rondelle, il l'attaquera jamais comme Gallagher. Il l'attaquera jamais comme un autre joueur. Mais il va...
Le résultat peut être le même.
Peut-être
plus efficace parfois.
Ben, absolument. Parce que, tu sais, bâton à bâton, t'en fais du travail. T'empêches l'adversaire de tirer, t'empêches l'adversaire de passer. Il est obligé de se baisser les yeux pour voir s'il a encore le contrôle de la rondelle. Pendant ce temps-là, il perd ses repères. Il sait pas les adversaires sont placés où. Peut-être que ça te donne le temps de faire un enjambé de plus puis de le frapper. Ce que Kotkaniemi devrait apprendre à faire. Parce que Kéké, quand il va frapper un adversaire, il a toujours les deux gants, comme dans le midget. Les deux gants à hauteur de la taille, de la poitrine. Puis il frappe l'adversaire comme pour y faire mal. Tu sais, il a réalisé qu'il était fort puis qu'il était grand, costaud. C'est parfait, mais ça te prend la rondelle, mon Kéké.
Mais c'est ça qui compte. T'as raison. C'est pas de défoncer les bandes, c'est de ressortir avec la rondelle.
Sortir la rondelle ou de diriger le jeu dans une direction où on sait que la rondelle va aller, donc on va la récupérer. Donc c'est de deux choses l'une. C'est pas grave de la récupérer par toi-même en isolant l'adversaire de la rondelle. Là.
Mm-hmm.
Ben, au moins, tu envoies la rondelle dans une zone restreinte, ton coéquipier va y aller, puis ben pour ça, ton bâton, il faut qu'il soit sur la glace. Sinon, tu n'as pas de chance.
Une couple de petites avant de te laisser partir. Je dirais pas en rafale, mais semi-rafale. Tatar, j'ai envie d'inclure Dano dans ma question comme ça. Vas-y. Tatar et Dano sont-ils des joueurs qui t'aident à faire les séries ou qui t'aident à aller loin en série?
Ah, c'est des joueurs avant tout qui t'aident à faire les séries. C'est à faire les séries, puis ils ont un bout de chemin à faire pour
devenir
leur jeu en série. Parce que là, il y a des choses que tu peux faire en saison que tu ne peux pas faire en série. Puis je pense que ça, c'est dans l'apprentissage de joueurs qui n'ont pas joué beaucoup en série. Aussi dans le mix. Ils amènent quelque chose, mais ils n'amènent pas tout.
Frolic et Perry, jusqu'à quel point l'entraîneur a dans la tête à un moment donné de les intégrer dans l'alignement pour aller dans le même sens que ce que tu as dit par rapport à Jake Allen, former un tout puis tout le monde sent qu'il y a un rôle à jouer?
Écoute, je pense pas que la préoccupation de l'entraîneur, c'est Taxi Squad. Je pense que la préoccupation de l'entraîneur, c'est son alignement de 20, ses gars qui sont sur la glace, c'est son équipe, c'est ça. Ça, c'est sa préoccupation. S'assurer que chaque joueur se sente important dans ce groupe-là. Surtout les joueurs qui, pour mille et une raisons, comme Lekkonen et Byron, ils ont été rétrogradés. C'est important pour eux autres. Là. C'est important que ces gars-là sentent que leur contribution, elle est très précieuse, que c'est important. Donc,
sinon, tu changes de vocation de trio. Là. Si eux autres, ça ne marche pas, ça se peut que tu réalignes complètement ça.
Exactement. Puis ces gars-là, ils doivent avoir confiance en eux. Au moment où tu vas faire ça, il faut que tu saches qu'ils ont confiance en toi, qu'ils ont confiance en... Ils se sentent bien dans l'équipe. Ils sentent que ce n'est pas un fardeau. Ils sont capables de faire des choses.
Et la petite dernière, ou presque 707e but d'Ovechkin, dans une défaite, malheureusement, il n'a pas marqué en tir de barrage contre les Penguins de Pittsburgh, mais il a marqué son...
Il savait que ça ne comptait pas.
C'est ça.
Sur sa fiche.
C'est peut-être ça. Son 707e, et je voulais te demander, j'ai demandé à Mario, toi, là, si je te dis marqueur de but, soit dans ta jeunesse ou aujourd'hui, y a-tu le Rocket Flower? Non, c'est Ovechkin.
C'est lui, et l'autre qui me vient en tête, c'est parce, à cause de ma jeunesse, c'est Mike Bossy. Je trouvais tellement.
C'est le choix de Mario.
N'importe comment, partout. C'est un des premiers joueurs que j'ai vu rouler sur la rondelle. T'sais, les joueurs, c'était en ligne droite avant, beaucoup.
Oui, oui, oui.
Puis lui, il roulait sur la rondelle, sur les mises au jeu. Il comptait beaucoup de buts des mises en jeu. Il savait où se placer. Il y avait du haut du cercle, à l'intérieur du cercle, il y avait un endroit où il se plaçait. Là. Puis c'était comme un abri. Personne ne le voyait. Puis pouf, elle était partie, elle était dans le but. Mais Ovechkin, il a 35 ans. Puis moi, je pense que pour encore 3-4 ans, il est capable de marquer 30 buts. Moi, je pense qu'il va atteindre, il va dépasser M. Howe.
Qu'il l'eût cru. Non, ouais. Ça continue. Et en terminant, petite prédiction pour ce soir, mon Danny, est-ce que le Canadien...
Oui, le Canadien va gagner, ah oui.
Risques-tu un pointage?
Le pointage, je ne sais pas, mais honnêtement, je trouve que le Canadien, offensivement, je m'attends à ce qu'il marque encore 4 buts.
C'est bon. OK. Moi aussi, je vais pour une victoire du Canadien ce soir.
4-3, par exemple, là, parce que je suis pas sûr. Je veux voir l'allure du match. Ça va dépendre du nombre de pénalités. S'il reste à 55, je pense qu'ils vont encore limiter à très peu les Oilers.
Merci, Danny.